93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'Aligre FM. Écoutez, on est particulièrement heureux de vous revoir, d'abord parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, l'été était passé par là, et on est particulièrement heureux de parler avec vous parce que aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle émission. C'est plus Jazzbox, c'est Jazzland, nouveau format, c'est un petit peu l'épisode, saison 1, épisode 1, nouvelle émission qui aura lieu tous les samedis, avec en alternance Jean-Marc Gélin, c'est-à-dire moi-même, et Lionel Eskenazi qui est à mes côtés. Bonjour Lionel.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous et je suis très heureux.
Tu es prêt
à faire partie de l'équipe d'Aligre FM, bien sûr.
Tu es dans les starting blocks.
À fond, à fond.
Toujours. Et alors, écoutez, on est d'autant plus ravis d'inaugurer cette émission que pour cette toute première, eh bien, on a le plaisir d'accueillir deux invités de marque et d'invités d'exception dont les albums viennent de sortir et marquent un petit peu cette rentrée musicale. En deuxième partie d'émission, on aura le plaisir de recevoir Laurent Coq, le pianiste Laurent Coq. Laurent, ça fait quelque temps déjà. Enfin, vous êtes déjà venu sur...
Oui, il y a un petit moment, il y a quelques années.
Bah oui, mais on va parler justement parce que vous nous avez manqué, Laurent. Ouais. On a attendu ce nouvel album. Ouais. Et on va en reparler. Pourquoi tant de silence? Mais on va en reparler en deuxième partie d'émission. Et en première partie d'émission, je vais laisser Lionel Eskenazi présenter notre invité de première partie.
Et mon invité s'appelle Chris Jennings. Bienvenue, Chris.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Chris Jennings, qui est canadien, mais c'est le plus parisien des Canadiens, parce que ça fait 22 ans, je crois, que tu es.
Ouais.
Que tu es chez nous et que tu participes. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, je vais juste préciser quand même très rapidement des gens importants avec qui tu as joué ces dernières années. On va faire vite. Hein. Joachim Kuhn, Nguyen Le, David Lynx, Dafer Youssef, Céline Bonassina, Grégory Priva. Voilà, je m'arrête là. C'est déjà un bel éventail, n'est-ce pas? Et puis, tu n'es pas seulement un sideman, mais tu es aussi compositeur et leader. Et d'ailleurs, plein de gens ne le savent pas, moi-même je ne le savais pas avant de t'en parler, c'est ton huitième album en leader, c'est quand même pas rien. Hein. Donc il y en a eu sept avant, alors j'ai l'impression que celui-là il est un peu plus important que les autres, que c'est un peu un disque charnière, et raconte-nous ça.
Cet album, l'album d'aujourd'hui, il a été dans le four pendant plusieurs années.
Dans le four,
on peut dire.
Il mijotait.
Il est chaud, alors, il est chaud.
Et entre ce temps-là, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs groupes comme Sideman, qui étaient des chouettes expériences pour moi. Et du coup, ça a cultivé beaucoup d'influences de jazz et aussi de musique du monde. Et le temps d'écrire et d'imprégner tout ce que j'ai appris en jouant avec ces collègues que j'admire beaucoup.
Très bien. Alors, on a écouté donc juste avant le générique de l'émission un morceau donc qui est le premier morceau de l'album, hein, qui s'intitule donc Casbah Radio. Alors, il a une histoire particulière ce morceau. Je te laisse le soin de nous la raconter.
Oui, j'ai eu l'honneur de jouer avec un groupe qui s'appelle El Gusto. C'est un orchestre de Chabi algérien. Et je suis plongé dedans, le seul étranger, le seul jeune avec ces vieux monsieur, un peu comme le Buena Vista Social Club, mais de l'Algérie, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps en train de jouer le Chabi, et on était en Algérie. Et une fois, on était en route pour l'aéroport, et j'ai entendu une petite mélodie dans le taxi. Ça sent cliché, mais c'était une vraie histoire. Et cette mélodie est restée en tête, et du coup, je me suis dit, comme j'ai toujours en tête, en rentrant de Paris, il faut que j'écrive un petit morceau en hommage à ces vieux monsieur qui m'a appris beaucoup de choses musicales et aussi humaines, de passer beaucoup de temps du monde entier où on a joué avec eux.
15 ans, hein, c'est long.
Ouais, 15 ans.
Et
ouais.
Ils ne sont plus de ce monde la plupart aujourd'hui.
Hein. Maintenant, c'est un peu en train de reconstituer avec les jeunes. Évidemment, ouais. Ça fait longtemps.
Il était
déjà âgé. Mais le projet était très chouette. Et le but du projet, c'était un documentaire assez compliqué et riche.
Alors, c'est, en fait, c'est le premier single.
Oui.
qui est sorti, puisque maintenant on sort beaucoup de singles, c'est un truc qui avait un peu disparu, mais maintenant avec le digital, alors c'est plus des 45 tours hein, comme dans le temps, mais avec les sorties digitales, voilà, et donc il est sorti le 23 août, le single, je crois bien, non, au mois de juillet,
oui.
Et le deuxième single, c'est Bosch is a Dandy, qu'on va écouter dans très peu de temps, là,
oui.
Et donc, avant d'écouter Bosch is a Dandy, puisque c'est le morceau porte le titre de l'album, c'est donc le titre éponyme. Raconte-nous ce que ça veut dire, Boys She's a Dandy, parce qu'il y a toute une histoire sur cette expression.
Pour cet album, je voulais un peu revenir vers mes racines. Et je voulais avoir du piano dans le groupe, parce que je travaillais beaucoup, beaucoup avec des pianistes en tant que sideman, et je voulais avoir un groupe avec du piano. Et revenir vers mes racines, j'ai cherché quelque chose depuis chez moi pour un peu cultiver et d'être créatif autour de ça pour cet album. Et du coup, j'ai trouvé des enchères de bétail et des commissaires-priseurs de bétail. Et j'ai commencé à jouer avec cette idée et d'essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec. Et du coup, j'ai fait un morceau basé autour de ça. Et il faut savoir que je viens de Calgary, Canada, et là-bas, c'est le plus grand rodeo d'Amérique du Nord. Et du coup, il y a un peu de cowboy chez moi et même j'ai un peu des racines américaines de cowboy. Donc, c'est quelque chose un peu dans mon sang, d'un côté. Et je voulais jouer et faire quelque chose avec ça en hommage. Ça fait 22 ans que je suis en France et du coup, j'ai fait le basculement où maintenant, j'ai passé plus de ma vie en Europe qu'au Canada. Du coup, ça m'a fait réfléchir beaucoup.
Ah oui, c'est pour ça que je parle d'un album charnière, parce que là, on est dans un mi-temps, quoi, au milieu de quelque chose. Quoi.
Exactement.
Ouais. Et l'expression, alors, « Bosch is a dandy », c'est compliqué à traduire en français, ça. Hein.
Bah, je pense que vous avez la même chose en français chez vous, et ça veut dire un peu « Ah, c'est classe, ça, c'est chouette, ça ouais. ». Un peu cet esprit-là, mais s'il y avait même ma grand-mère, elle disait cette phrase au Canada, « Boy, she's a dandy ». Si vous avez un chouette manteau ou une chouette
d'accord,
quelque chose, okay, on dit
non,
cette phrase.
On va là, hein, Jean-Marc, on va pas se priver de sortir l'expression à chaque fois qu'il se passe.
Et d'écouter le morceau.
Bah oui, on va l'écouter tout de suite.
Avec plaisir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Here's 1,000 on a man, but a number 1,000 here, but a lot number 65 in your catalog. 1,000 outstanding female to under 1,000. And now one did 1,000, but a number 1,000 on a but 1,100, but a number 1,100, but a number 1,100, but a number 1,100, but a number 1,050. And now 50 on a but 1,050, 1,000 a bit 1,050 to buy a bit of number 1,095 on the hand of the 96. 90's gonna have 7 on 97 here, 97 on 97, double 90's gonna have 7, 97 books on 7, 97 here, long 97 high, 97 and a half here, long wait, long 98.
Boy, you better pay attention when she's talking about her favorite things, lilacs and summer heat, and when the spare
you better. map, you map. 1,000, 1,050, 1,000, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050, 1,050,
Il fallait surtout laisser la vache faire son, comment on appelle ça, un hennissement, un
meuglement.
Un meuglement. Alors là, c'est un tube, moi je trouve que ce morceau, moi qui l'écoute depuis déjà un moment, il revient dans il y a cette mélodie dans la tête. Puis alors il y a ce débit de parole de cette vente aux enchères. Et alors là, c'est assez extraordinaire parce que le type, il a un placement rythmique de dingue.
J'ai écouté beaucoup de... différents
pour chercher. J'ai écouté beaucoup d'enregistrements pour chercher celui qui peut marcher le mieux, et c'est assez surprenant que chacun leur voix, leur rythme, leur manière de le faire est assez différent, très très unique.
Et lui c'est un artiste.
Hein. Ouais, ils sont tous les artistes. Hein. Franchement, parler si vite
mais
comme ça.
Mais il est au courant qu'il apparaît dans ton disque, ce monsieur.
Bah, c'est un art. Hein. Il y avait des concours et tout. Hein.
Non, mais il est au courant qu'il est sur
oui,
l'album.
Oui, on en avait parlé.
Mais alors, comment tu as récupéré tous ces enregistrements?
Bon, c'était juste une recherche, un peu de créativité, d'essayer de chercher quelque chose de différent, parce que je me suis dit, après 10 ans, quand j'ai fait ce disque, je voulais quelque chose plutôt unique et qui peut unifier le disque, qui est assez divers au niveau des styles. Mm-hmm. Et du coup, avec cette composition, ça a devenu un peu le mode de rassemblement.
Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais en fait, les deux morceaux que j'ai choisis pour démarrer cette émission, ce sont les deux singles. Et d'ailleurs, c'est les deux premiers titres du disque. Et celui-là, il est sorti donc en single, là, le 23 août dernier. Oui. Et moi, je pense que les radios, elles ne devraient pas hésiter à passer ça. Le morceau, il fait 3 minutes 22.
Je l'ai fait exprès court, cet espoir.
3 minutes 22, et puis franchement, c'est un hit. Et puis, il est drôle, il est humoristique, il raconte plein de choses. Et alors, tu vas nous présenter les musiciens, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y a cette chanteuse magnifique.
Oui, Rachel Eckroth, elle est venue, on se connaît depuis un autre projet avec Céline Bonassino, où elle était...
Elle est claviériste et chanteuse.
Une super pianiste et aussi chanteuse. Et dans ce groupe-là, on passait du temps ensemble et j'ai appris qu'en fait, elle venait de Las Vegas et aussi sa mère est chanteuse de country. Et j'ai cherché depuis un moment d'avoir quelqu'un qui chantait un peu dans ce style-là. Et dès que j'ai trouvé elle, j'ai demandé. Elle était très partante. Elle qui a écrit la mélodie et les lyrics.
Et les paroles, parce qu'elle chante sur deux morceaux, hein, c'est oui. Ça, dans l'album. Et à chaque fois, elle écrit les paroles. Hein.
Oui.
Ouais, donc elle s'est investie quand même dans le projet.
Mais j'aime beaucoup avec les musiciens de leur donner la liberté d'apporter ce qu'ils peuvent à la musique. Avec le moins de contraintes possible, en espérant qu'en donnant cette liberté, ils vont apporter des chouettes choses.
Mais oui, tu leur laisses une grande liberté, d'autant plus qu'il y a deux morceaux complètement improvisés dans le disque.
On
peut peut-être en parler maintenant.
Bah, l'enregistrement, on n'a pas beaucoup répété. En fait, on n'a pas répété, on s'est vu.
Vous n'aviez pas le temps, c'est ça.
C'était une rencontre assez rapide. On avait 2 jours et demi pour enregistrer. Et du coup, j'aime beaucoup quand on improvise. Et du coup, il y avait des moments où on improvisait... complètement pour voir qu'est-ce que ça donnait et aussi d'avoir une petite respiration après
entre chaque morceau très très écrit hein, parce que c'est quand même très écrit et donc t'as fait un peu comme ton Théo Macéro hein, c'est-à-dire que il y avait des longs morceaux improvisés, t'as pris les ciseaux et t'as pris des petits bouts comme ça
les meilleurs moments et je faisais ça comme des exprès.
Alors on va présenter les autres musiciens parce qu'on a parlé de Rachel Eckroth, mais alors à la guitare il y a un type extraordinaire,
les gars, il y a Kalle Kallima qui vient de la Finlande, qui habite à Berlin. Et au piano, il y a Patrick Goerger.
Alors là, il y a eu un super solo de piano dans le premier morceau qu'on a entendu, hein, dans le Casbah Radio.
Patrick, c'est un collègue de longue date, un très très bon ami. Ça fait plus de 20 ans, on joue ensemble.
Super pianiste, tu le connais, Laurent, toi? Non, oui, tu le connais, parce qu'il est batteur aussi, en plus.
Oui,
il est plus connu comme batteur, d'ailleurs.
Ça dépend quelle musique.
Ouais.
Il est très, très versatile.
Et il faut préciser que c'est le fils
d'Alain.
Du grand Alain Goerager, qui, au début des années 60, a fait énormément d'arrangements et de direction d'orchestre, et a travaillé avec Gainsbourg et beaucoup d'artistes en France. Hein.
Oui,
bah toujours avec Patrick, entre la chanson et le jazz, il oscillait comme ça entre les deux. Et à chaque fois qu'un chanteur de chansons françaises avait envie de jazzifier un peu ses morceaux, il faisait appel à Alain Goerager. Mm. Entre autres, il y en avait d'autres, hein, bien sûr.
Ouais.
Alors, il nous manque eh bien, le batteur.
À la batterie, c'est Eric Schaeffer, ah, avec qui on joue en trio avec Joachim Kuhn.
Ouais.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je me suis dit, il faut absolument qu'on
rejoue ensemble. Moi, je le connais bien. Il est incroyable. Il joue avec Michel Volny depuis longtemps. Là. Oui. Il est dans le trio de Volny depuis le début, d'ailleurs. Il n'a jamais changé de batteur, Volny. Mais c'est vrai que c'est le genre de type, on n'a pas envie de s'en séparer quand on joue avec lui. Hein. Il amène... Et moi, j'ai eu la chance de vous voir sur scène au New Morning. Il y a peu de temps et en live, ouais, il est incroyable. Il amène une énergie, un drive et puis beaucoup d'inventivité dans son jeu. Puis ça colle bien avec ton jeu de contrebasse, qui est aussi très, très riche et à la fois souple et riche. Et du coup, il y a une belle entente. C'est vrai que ça, si vous avez joué ensemble longtemps avec Joachim Kuhn, ça s'entend. Quoi. Il y a une vraie entente entre vous. Oui, on oublie un saxophoniste, parce qu'on ne l'a pas encore entendu là, dans les deux morceaux que j'ai choisis, mais il y a un saxophoniste qui vient de Nouvelle-Zélande, mais qui habite aussi en Allemagne, je crois.
Oui, ouais. Il s'appelle Hayden Chisholm, et je l'ai rencontré grâce au producteur du disque, c'est Ralph Kemper, à Cologne, un studio s'appelle Riverside Studios, et c'est son label Eden River Records qui sort le disque, et c'est vraiment grâce à lui... Ce disque se produit parce qu'il me donnait l'occasion et la possibilité de faire cet enregistrement. Et Hayden, il s'enregistrait la veille. Et il m'en a parlé de Hayden. Il dit, je pense que ça peut bien marcher entre vous. Et quand j'ai contacté Hayden, il dit, j'ai fait une session dans le studio la veille. Du coup, je suis venu la veille pour faire un enregistrement improvisé en duo très tard le soir, après sa séance.
Ah oui, c'est dingue.
Et le lendemain, il avait jusqu'à 14 heures avant qu'il parte en train. Du coup, il était d'accord pour jouer sur... je crois qu'on avait fait 3-4 morceaux avec lui.
C'est pour ça qu'il n'est pas sur tous les morceaux de l'album.
Mais
puisque
partie du groupe. Hein,
mais il fait partie du groupe parce que moi, je vous ai vu sur scène. Il a un rôle très important parce qu'il est là sur presque tous les titres.
En plus, est chanté.
Bah voilà, comme Rachel...
Las Vegas,
elle est à Las Vegas et qu'elle aurait fallu qu'elle vienne juste pour chanter deux titres. Là, c'était pas très écologique quand même de faire amener Rachel pour chanter deux titres. Du coup, c'est lui qui s'y colle. Et il chante super bien.
Il a fait un super travail. Ouais. Et en plus, il est quelqu'un de très créatif. Et il a fait le commissaire priseur de bétail en plus, qui était pas évident. Hein. Il nous a surpris avec ça. Ça, c'était pas prévu.
Donc, c'est un groupe vraiment cosmopolite où il y a un peu toutes les nationalités. Mais il y a une base, c'est l'Allemagne. C'est Cologne, hein, c'est ça, en fait. C'est un petit peu l'endroit où vous vous réunissez pour jouer. Quoi.
Oui.
C'est vrai que toi, tu vas beaucoup dans les pays, en Allemagne, en Scandinavie, dans ces pays-là où tu as beaucoup de gigs. Donc c'est vrai que
bien bouger.
Non, mais c'est vrai que tu y vas souvent, même à Berlin. Mm. C'est comme ça que tu connais aussi tous ces musiciens.
C'était grâce à Eric que j'ai rencontré Kale Kalima.
Ouais.
Et du coup, Patrick et moi, on connaît depuis longtemps. Et Hayden, grâce à Ralph, au studio.
Ben super, alors on va parler de Nui Yenlé, si tu veux bien, ton ami Nui Yenlé, avec qui tu as fait pas mal de disques et beaucoup de tournées. Alors au New Morning, il s'est passé quelque chose pour le concert de sortie d'album, c'est qu'il n'a pas seulement fait un concert de sortie d'album, il y avait une première partie, et cette première partie, c'était un duo entre Chris Jennings et Nui Yenlé, et c'était époustouflant. Mmh. Alors moi, je m'en remets toujours pas de la connexion, l'alchimie comme ça que vous avez entre vous... Et il faut absolument enregistrer un disque en duo comme ça. Mais je sais que Act sont pas très chauds. Apparemment,
si, en fait, tout est toujours possible. C'est juste Nguyen, il a beaucoup de bonnes idées, des projets, donc chaque truc dans son temps.
Mais en tous les cas, en concert, ça marche super. Merci. Mais il y a plusieurs dates.
Nguyen, c'est un collègue de très longue date. Ouais. Et je l'ai entendu jouer quand j'avais 16 ans au Canada. Et je suis devenu fan directement et la vie nous a amenés ensemble.
Ah
et
bah là, c'est génial quand tu joues avec les gens pour qui t'es fan, c'est
un de mes héros.
Tu réalises tes rêves là, oui.
Et ça fait 15 ans que je joue dans tous ces projets pratiquement, beaucoup, et après ça fait les derniers deux albums où je suis à la contrebasse. Et on a ce duo qui existe depuis plusieurs années, qui joue beaucoup plus en Allemagne, mais... Il existe et je voulais qu'il soit plus présent et présenté en France.
C'était une très bonne idée. Et alors, en plus, tu l'as fait venir sur quelques morceaux à la fin, au rappel et tout. Donc, il y avait Nui Yenlé et Kale Kalima ensemble. Hein. Et les deux guitares héros, c'était assez incroyable. Et à la fin, ils ont discuté technique, pédale d'effet et tout. C'était très marrant. Alors, justement, je parlais de Nui Yenlé parce que le dernier morceau qu'on va écouter de cet album, il s'appelle « Ephraim Clocks ». Et c'est un morceau que en fait, tu as arrangé arrangé, mais qui était au départ un morceau sur un disque de Nguyen-Lé, c'est ça?
C'est ma composition. Ouais. Et Nguyen, souvent dans nos projets, ou c'est son projet, il m'a demandé de contribuer à un morceau. Et du coup, ce morceau, j'ai contribué. Et du coup, l'arrangement qu'on avait fait...
Il s'appelait 6h55, c'est
oui.
ça
ouais. L'arrangement qu'on avait fait pour le disque de Streams de Nguyen-Lé. Et c'est lui qui a fait cet arrangement. Et il a un peu ajouté ses épices sur le morceau. Et je l'ai bien gardé. Et du coup, c'était naturel pour le concert de New Morning qu'il vient pour faire les derniers morceaux.
Il a joué sur ce morceau-là.
Et c'était avec lui comme invité en plus.
Alors, on va l'écouter tout de suite. Efren Klok, on va peut-être le chanter parce qu'il est un petit peu long. Tu nous excuseras.
Oui, pour les musiciens, c'est bien de savoir que le morceau, il est en 5 dans le rythmique, mais la mélodie est en 7.
Ah oui,
mais c'est la même chose.
Il faut trouver des petits challenges comme ça.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et oui, vous êtes bien sûr Aligre FM 93.1 Jazzland. On était en compagnie de Chris Yening. Merci beaucoup, Chris. On rappelle le titre de votre album, Boss is a Dandy, paru sur le label Eden River Records. Merci beaucoup
à vous,
Chris. Et alors, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on a un contrebassiste, un pianiste. Et si Lionel Eskenazi prend la batterie, on pourra pratiquement monter un trio.
Il vaut mieux pas que je prenne la batterie. Mais j'en ai fait un peu, mais il y a bien longtemps.
En tout cas, un grand merci. Laurent, vous connaissiez l'album de Chris ?
Je connaissais son existence, je ne l'avais pas écouté.
Oui, vous avez joué ensemble.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais je ne connaissais pas cet album que j'entends avec grand plaisir.
Voilà, ben voilà, c'est l'occasion de découvrir l'album. Et alors, Laurent, on vous reçoit pour la sortie d'un nouvel album. Je disais tout à l'heure, pour commencer l'émission, que vous nous aviez manqué. Parce que y a beaucoup de musiciens qui subissent un peu ce diktat de sortir un album tous les ans. Vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour sortir un nouvel album, puisque le précédent datait, je crois, de 2019. Et vous prenez votre temps pour revenir au trio. Donc, deux moments de maturation. Pourquoi ce temps et pourquoi ce moment maintenant ?
Il y a plusieurs raisons, je pense, à ce hiatus. Il y a le Covid, évidemment, qui nous a tous contraints de changer nos habitudes. Il y a aussi cet album, c'est le 16e que je fais sous mon nom. Donc il y a pas mal d'albums déjà que j'ai fait. Et donc le sentiment peut-être de devoir prendre plus mon temps pour avoir quelque chose d'un peu frais à proposer. Pour moi, c'est toujours un peu le défi, c'est de, aussi bien quand je joue, que j'écris ou que je pense à un nouveau projet, c'est d'essayer de poser des choses que j'ai pas déjà faites. Et donc, avec le temps, ça m'est de plus en plus difficile et ça me prend plus de temps d'arriver à relever ce défi.
Je propose, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je propose qu'on écoute déjà un premier morceau. Et vous nous direz d'ailleurs, puisque l'album s'appelle Confidence, c'est quoi ces confidences ? Parce que Confidence, comme le dit Guilhem Flouza dans ses liner notes, ça veut dire plusieurs choses. Vous nous direz un petit peu, mais là on va écouter Around the Corner, donc tiré de l'album Confidence, paru sur le label Jazz and People. On écoute.
Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Et oui, tout comme elle vient de le dire, la dame, vous êtes bien sûr Aligre FM 93.1 Jazzland en compagnie de Laurent Coq pour la sortie de l'album Confidence paru sur le label Jazz and People. Et là, on venait d'entendre Around the Corner. Je me retourne un peu vers Lionel. Lionel, ça joue terrible.
Ça joue super. Quel trio magnifique.
C'est presque un power trio. On a l'habitude de parler de power trio. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie, parce que c'est le dernier album en trio, c'était Kingship, je crois,
oui.
Qui vous a donné envie de revenir à cette ce format du trio, parce qu'on vous a entendu avec Walter Smith sur Lafayette Suite, vous avez joué avec Miguel Zenon, vous nous avez un peu fait découvrir, il était connu, mais vous nous avez fait vraiment bien découvrir Ralph Lavital, magnifique guitariste, là vous revenez au trio.
J'ai eu la chance de jouer dans cette salle que nous aimons tous à Paris, qui est le Café Laurent, qui est un bar d'hôtel où on peut jouer de manière acoustique sans ampli devant une audience qui est vraiment très dévouée à la musique dans un cadre qui est assez exceptionnel, et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu roder en partie, parce qu'on a joué ailleurs aussi, mais et ce répertoire et ce groupe qui assemble des musiciens que je connais depuis longtemps, mais avec lequel j'avais déjà envie d'avoir cette formule de trio. Mais on s'est donné le temps de trouver vraiment des habitudes et ensemble un son et une confiance, une confidence peut-être, qui nous a permis après d'aller en studio pour enregistrer cet album.
Vous pouvez peut-être nous rappeler le nom des musiciens qui vous accompagnent ?
Bien sûr, c'est le contrebassiste Yoni Zelnik, qui est en France depuis 30 ans, d'origine israélienne. Et c'est le Marseillais Fred Pasqua, qui a été un moment à Paris, qui est maintenant de nouveau à Marseille, mais que tout le monde connaît, qui fait partie de nos meilleurs batteurs.
Mais on a le sentiment que par rapport à votre écriture, parce qu'il y a votre jeu de pianiste, et je pense qu'il faut quand même souligner que vous êtes un de nos plus grands pianistes que nous ayons actuellement, mais il y a cette écriture aussi qui est magnifique. Mais surtout, on a l'impression que, là, vous avez fait cette expérience au Café Laurent, on a l'impression que ça fait des années que vous jouez ensemble.
On se connaît depuis pas mal. Et puis si je les ai appelés, c'est aussi, je sais que dans cette musique, ils vont trouver tout de suite leur marque. Et un petit peu comme Chris l'a expliqué tout à l'heure, moi aussi j'aime bien laisser beaucoup de liberté à mes musiciens pour que cette musique devienne la nôtre à part entière, et que eux-mêmes la transforment et m'amènent à jouer des choses que j'aurais pas forcément jouées sans eux. Et c'est exactement ce qui se passe avec eux.
Alors, je vous disais hors antenne, mais je vais le dire, rappelez surtout vos dates de concert, parce que je risque de les oublier, donc comme je n'ai pas envie de les oublier, on va les dire tout de suite, parce que quand on entend ça, on se dit, c'est une musique à écouter chez soi, mais c'est aussi une musique à écouter vraiment sur scène, c'est vraiment un power trio, donc vous serez le 23 et 24 octobre au Sunside.
C'est ça, dans le cadre du festival, très beau festival Jazz sur scène, dont je rappelle qu'il offre une promotion, on peut prendre on peut prendre un abonnement, je crois que c'est 40€ pour 3 places, donc c'est vraiment intéressant pour les étudiants notamment. Et il y a une très très belle programmation. On parlait hors antenne de Micah Thomas qui joue au même moment au Duc des Lombards en trio et qui vient avec un trio extraordinaire que j'ai écouté il y a quelques mois. Donc oui, il y a une très belle programmation jazz sur scène.
Pour ceux qui ne connaissent pas Micah Thomas, vous pouvez l'écouter sur le label LP345 sur un album solo absolument exceptionnel. Je propose qu'on écoute, puis vous allez nous raconter un peu ce que veut dire ces confidences, ce que ça raconte. D'ailleurs, avant qu'on écoute l'autre titre, Around the Corner, c'était...
Alors ça, c'est un titre, c'est un des rares. Il y a deux titres que j'ai déjà enregistrés qui n'ont pas été écrits expressément pour cet album, dont celui-ci, que j'avais enregistré avec Julien Louraud dans un album qui s'appelle Saigon, que nous avions enregistré au début des années 2010 et que j'ai réarrangé pour ce trio parce qu'il me semblait que ça marcherait bien avec ces gars-là. Et voilà.
Alors dans cet album, vous rendez un hommage à un pianiste qui vous est visiblement particulièrement cher, c'est Alain Jean-Marie, on va en parler juste après, mais on va écouter Mazurka pour Alain Jean-Marie.
Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le pauvre Yoni qui fait un solo magnifique et qu'on sucre. Mais bon, les solos de basse, c'est comme ça.
Bah, les contrebassistes, hein, tu sais, c'est un peu...
C'est vrai.
Et oui, vous êtes bien toujours sur Jazzland, Aligre FM 93.1, en compagnie de Laurent Coq pour l'album Confidence et que Yoni Zenik nous pardonne. Mais oui, il y a plein de choses à se dire. Là, il y avait un hommage que vous rendiez à Alain Jean-Marie. Oui. C'est quelqu'un d'important pour vous?
Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui m'a accompagné dès mes premières années à Paris. Vous avez tous connu la villa, bien sûr, hein, ce lieu qui a vu défiler... tout le Gotha du jazz américain qui venait accompagné d'une rythmique locale qui était souvent composée d'Alain, Jean-Marie, Philippe Soira et Gilles Naturel, qui est un trio qui joue toujours aujourd'hui.
Absolument, ouais.
Et qui a fait le bonheur des jeunes musiciens comme moi qui ont trouvé en un Alain un modèle, un maître à suivre parce que à la fois très érudit et en même temps toujours dans l'improvisation, dans une approche très fraîche de la musique. Et j'ai compris un peu plus tard peut-être aussi les raisons de cette fraîcheur quand j'ai découvert un autre versant d'Alain un peu plus tard, qui est tout son travail de relecture du répertoire caribéen et qui connaît très bien. C'est vraiment une encyclopédie à la fois du bebop, mais aussi de toutes les mazurkas, les biguines, de toute cette musique martiniquaise, guadeloupéenne.
Et même cubaine, et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse, pour dire que aux auditrices et auditeurs, qu'il y a un film absolument magnifique, que vous pouvez voir en replay sur Alain Jean-Marie, sur son voyage à Cuba. Mm-hmm. Le film s'appelle Impression cubaine, et nous conseillons à toutes les auditrices et auditeurs d'aller voir ce film.
Il faut aller sur la plateforme de France Télévisions, et vous tapez Alain Jean-Marie, Impression cubaine, et vous tombez dessus. Mmh. Un film de Bertrand Fèvre, je précise le nom du réalisateur.
Lionel, je crois que tu avais une question
à poser. Oui, alors bon, là, ça n'a rien à voir avec Alain Jean-Marie, mais non, c'est la pochette qui m'intrigue et le titre Confidence, parce qu'il y a un magnifique divan vert, et donc est-ce qu'il y a une introspection psychanalytique ou quelque chose de cet ordre-là?
Introspection, sans doute, psychanalytique, je ne sais pas. En tout cas, ce divan, il invite à la rencontre et au dialogue et à prendre le temps d'échanger, et c'est un peu ce qu'on a fait avec ce trio. Se donner davantage de temps, tout simplement, dans un monde qui va très vite, où on est bombardé d'informations en permanence, et puis aussi de nouvelles musiques qui sortent. Et c'est aussi pour ça que j'ai ressenti, moi, le besoin de me donner le temps nécessaire pour produire quelque chose comme ça. Donc voilà, je crois que c'est ça. L'idée aussi de Confidence, c'est l'envie peut-être de... prendre le temps dans la musique aussi et de jouer les choses qui viennent quand elles viennent, quand on les entend, et si on les entend pas, de pas forcément les jouer, de pas forcément chercher à toujours combler l'espace. Pour ça, il fallait des partenaires qui soient aussi solides que Yoni et Fred pour faire ça.
Vous n'avez pas écrit en pensant à Yoni et Fred?
Si. À part les deux morceaux, et encore, je les ai arrangés en pensant à eux, puisque je les ai arrangés pour le trio. Sinon, tous les autres morceaux ont été écrits avec eux à l'esprit, leur son, leur musique, leur souplesse.
Donc quand on est dans cette démarche d'écriture, ça veut dire aussi qu'on est dans une démarche, que c'est un trio qui est amené à durer. Alors.
Oui, je confirme.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Mais d'autant plus que les trios précédents, c'était avec des musiciens américains qui étaient moins disponibles. Beaucoup moins par définition, par la distance qui nous sépare. Alors que là, j'ai la chance de pouvoir jouer régulièrement avec eux, de faire des sessions, de jouer à Paris. Et donc ça, c'est un luxe que je découvre avec bonheur. Donc je ne vais pas m'en priver.
Vous avez un lien particulier avec le jazz américain.
Oui.
On se disait un peu hors antenne que vous étiez un peu notre veille. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Dunbeat ou des choses comme ça, mais quand il y a des pépites qui sortent un petit peu outre-Atlantique, il faut aller voir la page Facebook de Laurent Coq et on est au courant bien avant. Pourquoi cet attachement particulier à ce jazz américain? Vous vous sentez plus jazzman américain? Vous avez vécu longtemps?
Non, je dirais pas ça. Non, je suis bien français et justement pour avoir vécu pas mal d'années aux États-Unis, je sais bien où je suis et je dirais pas du tout que je suis musicien américain, du tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un amour pour la musique qui vient de New York. C'est le jazz qui m'a amené au jazz, tout simplement. Et je suis content de voir, on parlait de Micah Thomas, il y en a d'autres, on parlait d'Emmanuel Wilkins, hors antenne. Je suis content de voir que c'est une tradition qui perdure, à la fois de jouer une musique qui est ancrée dans une tradition, qui a maintenant plus d'un siècle, et en même temps qui présente une grande modernité, toujours de nouvelles idées, de formes, de manières de jouer ensemble. Et ça, ça me touche beaucoup, oui.
Alors, dans votre parcours musical, vous avez joué avec beaucoup de monde, sur la scène hexagonale notamment. On ne vous entend plus maintenant en leader, mais on ne vous entend plus tellement en sideman. C'est quelque chose qui vous
intéresse plus ? Je fais peut-être moins de choses en sideman parce que je suis peut-être un peu plus... j'enseigne beaucoup. Oui. Et je le fais pas je le fais par amour de l'enseignement. Plus je prends de l'âge et plus j'aime le faire. Donc ça me prend du temps. Et puis il y a peut-être des projets que je ferai plus aujourd'hui parce que je les ai déjà faits, parce que j'ai envie de consacrer mon temps et mon énergie à des choses que j'aime vraiment passionnément. Alors là, par exemple, ces derniers temps, j'ai la chance de jouer très souvent avec Guillaume Flouza, musique que j'aime beaucoup.
Qui signe les liner notes et qui a fait un très bel album
récemment. Magnifique. Et on vient d'en enregistrer un troisième volet de chansons. J'ai enregistré aussi le disque de Fred Pasqua, donc qui est sur l'album. Peut-être que voilà, je me suis recentré sur une famille de musiciens.
On peut ajouter Ralph Lavital.
Bien sûr, bien sûr, Ralph aussi, évidemment.
Ralph Lavital, qui est aussi d'ailleurs, parce qu'on parlait d'Alain Jean-Marie, il y a aussi
qui joue avec Guillaume, qui est dans le groupe
Guillaume.
Oui,
c'est pour ça. Hein. Oui, c'est une famille.
C'est ça.
Il y a aussi dans votre approche de l'écriture aussi un lien. On parlait du lien avec les États-Unis, mais moi je vois aussi un lien très fort avec la musique caribéenne.
Sans doute que d'avoir côtoyé Ralph pendant toutes ces années m'a fait découvrir encore davantage cette musique qui, d'une certaine façon, allie des qualités similaires à la musique dont on parlait, de New York. Et les liens sont pas récents, hein. Ça fait longtemps qu'il y a des liens très forts. Mais ce que disait Chris tout à l'heure quand il parlait de Cologne et des musiciens avec lesquels il joue depuis 20 ans, je crois que quand on avance dans ce métier, on se constitue une famille. Et c'est comme ça pour tout le monde. Hein, et au bout d'un moment, on se sent bien avec ces personnes-là et il n'y a aucune raison de ne pas les côtoyer.
Alors, Laurent, on va se dire les choses. Vous êtes un musicien engagé, très engagé. Un peu notre, j'irais, toute comparaison égale par ailleurs, notre Mingus français. Ah. C'est-à-dire que...
c'est un beau compliment, ça. Hein.
Quelle pression.
Parce que vous êtes souvent... en colère, et vous exprimez votre colère sur des sujets qui tiennent à la culture et à la façon dont la culture est traitée dans ce pays. Je renvoie à votre blog, qui est, vous pouvez peut-être le dire d'ailleurs.
C'est Révolution de Jasmine, J-A-2-Z-M-I-N.
Il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas si on peut dire que vous sortez de votre rôle de musicien, donc vous ne sortez pas de votre rôle de musicien, mais vous exprimez, c'est important pour vous d'exprimer un certain nombre de choses sur le...
Sans doute, puisque je le fais, mais j'avoue que je pense que c'est dans ma nature, voilà. Et puis, maintenant, j'ai atteint un âge où j'ai plus trop de... Comment dire je m'en fiche un peu des conséquences. Je les ai payées, donc voilà.
En tout cas, c'est passionnant. Non, mais c'est toujours passionnant.
J'aime bien l'échange et j'aime bien, effectivement, les échanges que ça produit, d'avoir un regard critique, de l'exprimer et d'échanger avec les musiciens, et pas que les musiciens, avec les personnes qui font vivre cette musique, comme vous. Je trouve que c'est intéressant, c'est enrichissant, ça fait vivre aussi cette scène, ça fait réfléchir. Et je trouve que c'est une chose assez saine, finalement.
Tout à fait. Après, on est parfois
en désaccord.
Moi, je vois des voix, des fois on n'est pas d'accord avec vous, des fois bien aussi. Sûr. Là, vous avez fait un magnifique papier sur les imposteurs. Bon, on va pas en parler là, mais c'est effectivement très intéressant sur effectivement une leçon sur le jazz de quelqu'un qui n'avait pas vraiment pas une question de légitimité, mais pas vraiment une connaissance du jazz et qui en parlait ostensiblement sur
Arte. Et surtout sur Arte. C'était surtout ça.
Sur Arte, voilà.
Surtout ça.
Donc, c'est bien. Vous avez effectivement cette cette expression. En tout cas, l'expression ici, elle est beaucoup plus apaisée. Et encore une fois, on vous remercie d'être venu présenter cette
C'est
album.
Moi qui vous remercie.
On rappelle le titre Confidence, paru sur le label Jazz and People. Le temps passe très vite, il va falloir nous quitter. On remercie aussi Chris Yenning pour l'album Boys She's a Dandy. Et puis Lionel, que maintenant les auditeurs vont retrouver une semaine sur deux. À suivre, alors je remercie aussi à la technique Armand. Merci Armand, je fais un signe de la main impeccable, pas de problème. À suivre Lusitania. Donc vous retrouvez la semaine prochaine Lionel Eskenazi avec...
Alors j'aurai comme invité deux saxophonistes qui se connaissent depuis leur enfance. Il s'agit de Thomas de Pourquerie et de Sylvain Riflet.
Eh bien voilà, ça sera l'épisode 2 de la saison 1 de Jazzland. En tout cas, merci à vous, messieurs,
merci
d'avoir
beaucoup.
Été présents.
Merci beaucoup.
Et
longue vie à Jazzland.
Oui. On espère. Merci, Laurent.
Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes les auditrices et auditeurs. On se quitte avec un dernier morceau, L'Ange m'a DJ, voilà, de l'album Confidence. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Ciao.
Écoutez Aligre FM 93.1.